Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Parce qu'il est partout, parce qu'on lui court après sans cesse, parce qu'il ne nous satisfait jamais totalement, parce qu'on nous le vend, parce qu'on l'envie, parce qu'il est éphémère, parce qu'il est changeant ou illusoire, et aussi parce qu'il est précieux, je me devais de vous parler du bonheur. À en croire certains auteurs, le bonheur, ça se partage, comme l'apéro, les frais de déplacement et les biscuits chocolatés au moment du goûter. Et il se pourrait même que le bonheur se trouve dans la parole, ce qui faciliterait sa transmission. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris cette brève histoire racontée par Muriel Bloch. Un conte ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Il fait trois fois le tour d'une maison avant d'entrer dedans et gare à celui qui en connaît un mais ne veut pas le raconter. Un matin, au Mexique, un paysan pauvre entendit dans une auberge un homme riche raconter le rêve qu'il avait fait la nuit même. Émerveillé, ce paysan voulut aussitôt acheter le rêve. « À quoi cela pourra-t-il te servir ?» demanda l'homme riche. « À être heureux, » répondit le paysan pauvre. Il paya le rêve avec ses derniers sous et prit la route pour rentrer chez lui. Le chemin était long et le paysan s'arrêtait dans chaque village. Là, il racontait le rêve qui était devenu le sien et les gens l'écoutaient, heureux à leur tour. Dans cette petite histoire, raconter un rêve heureux devient une source de joie et alimente le bonheur du conteur. Le bonheur ne se vivrait donc pas égoïstement, bien au contraire, car son partage le nourrit. Et en parlant de nourriture, de bonheur à deux paroles, je pense à ce conte intitulé « La chair de la langue ». Ce conte, qui joue avec les contrastes et insiste sur l'aveuglement dont certains sont victimes, dit, encore une fois et à sa manière, comme les mots et leur partage contribuent au bonheur. Voici donc la chair de la langue. Il y avait autrefois un roi riche et puissant et une reine. Une reine qui était maigre, pâle et triste. Elle n'avait aucun appétit, ni pour la nourriture, ni pour la vie. Le roi observait sa reine et ne savait pas comment lui redonner les rondeurs qu'elle avait eues quelques années auparavant. Un jour, le roi regarde par la fenêtre de son palais quand il voit passer dans son jardin une femme qui respire la santé. Une femme bien ronde et bien plantée, une femme au corps généreux et au regard radieux. C'est la femme du jardinier! Il est abasourdi. Sa femme à lui a tout ce dont elle peut rêver, tout ce qu'une femme peut souhaiter, et elle est maigre comme un clou rouillé. Le jardinier, lui, n'a pas de quoi se nourrir tous les jours, et il a une femme qui a des formes d'abondance. Le roi sort de chez lui et va trouver le jardinier. « Ta femme est resplendissante, la mienne est souffrante. Dis-moi de quoi tu la nourris ?»« Moi ?» répond le jardinier. « Je nourris tous les jours ma femme avec la chair de la langue. »« C'est tout ?»« Oui, c'est tout. » Le roi rentre précipitamment chez lui et va trouver son cuisinier. « Tu vas me préparer un banquet avec des langues de toutes sortes, assaisonnées de toutes les manières possibles. Je veux une palette de saveurs qui soit digne des palais les plus exigeants. » Le lendemain, les tables sont recouvertes de toutes sortes de plats avec des langues de bœuf, de veau, des langues de mouton, de lapin, d'alouette, de moineau et des grettes. Des langues grillées, mijotées, rôties, farcies, bouillies et puis toutes sortes de sauces avec des épices du monde entier. Le roi va chercher la reine et l'accompagne, fière de lui, jusque dans la salle à manger. Il l'invite à se servir. La malheureuse voit toutes les langues baignées dans des jus aux couleurs étranges, elle a mal au cœur. Elle regagne immédiatement sa chambre. Le roi est dépité. Il va de nouveau trouver son jardinier et lui dit « Bon, tu vas prendre ma femme chez toi pendant 6 mois et la tienne viendra vivre au palais. » Les désirs des rois sont des ordres. Dès le lendemain matin, l'échange est fait. Il en faut du temps dans la vie. Dans les contes, il suffit de 2 mots. Voilà 6 mois qui viennent de s'écouler. La reine revient au palais resplendissant. Elle est toute ronde et elle rit à la vie. La femme du jardinier, quant à elle, elle a dépéri. Elle est maigre et grise, son regard est éteint et son visage ne sait plus sourire. Le roi, qui ne comprend rien, demande aux femmes de lui expliquer. « Quand mon mari rentre le soir, dit la femme du jardinier, il est de bonne humeur. Qu'il ait de quoi acheter à manger ou pas, il me raconte sa journée. Les fleurs qui ont éclos, les arbustes qui ont poussé, les fruits qui se sont épanouis, la pleine lune dans la nuit. Quand il a fini, il joue de la musique et il chante, puis il me raconte des histoires, me récite de la poésie, et les soirées avec lui prennent la saveur d'un paradis. « Oui, renchérit la reine, il a toujours une belle histoire ou une parole douce à offrir, et cela embellit la vie. Il donne le meilleur de lui-même, la chair de la langue. » Nul ne sait si le roi a vraiment compris. Certains disent que ce jour-là, les deux femmes ont choisi de vivre avec le jardinier. D'autres, plus optimistes, racontent que le roi s'est mis à raconter de beaux récits et que sa reine a vécu le restant de ses jours très épanouie. Que ce soit dans le conte de Muriel Bloch ou dans celui que je viens de vous lire, le conteur, celui qui prend le temps de partager ses histoires avec les autres, est un messager du bonheur. Dans ces deux histoires, celui qui compte est celui qui est pauvre, mais, comme on le voit dans « La chair de la langue », la nourriture la plus importante est intellectuelle et non pas matérielle. L'autre devient indispensable. Il est celui qui reçoit et transmet le bonheur, et aucune forme de matérialité, argent ou langue animale, ne saurait avoir cette fonction-là. Il existe, bien sûr, d'autres formes de bonheur que celui de la parole transmise ou partagée. Il y a, par exemple, le bonheur amoureux. Il apparaît souvent dans les contes, il est parfois bref, parfois contrarié, voire empêché, mais il arrive aussi qu'il se réalise et qu'il termine l'histoire. À la croisée de tout ça, je vous ai trouvé un conte qui s'intitule « La perle des abîmes ». Il n'est pas rare, dans les contes, de voir des princes épouser des bergères. Moins courantes sont les unions entre princesses et malandrins. Pourtant, c'est d'une affaire de cette sorte qu'il va être question dans le récit qui suit. En des circonstances qu'il serait oiseux de narrer ici, Gaël Anne, fille du roi d'Armor, et Morgane le Noir, flibustier notoire, s'étaient épris l'un de l'autre. Dans le feu de la passion, ils avaient juré de s'appartenir, quoi qu'il advienne, et pour toujours. Mais c'était sans compter le père de la belle. Lorsqu'en toute innocence, celle-ci lui annonça ses intentions, il entra dans une violente colère. « Jamais je n'aurai un pirate pour gendre !» « Je préférais encore t'enfermer au couvent jusqu'à la fin de tes jours !» La princesse eut beau protester, supplier, pleurer et se morfondre, le refus paternel resta irrévocable. Laure, n'ayant d'autre choix que de le transgresser, elle décida de fuir à l'autre bout du monde. Aussi, la nuit suivante, quitta-t-elle en secret le château pour courir jusqu'au port, s'embarquer sur le galion de son bien-aimé, en partance pour la Jamaïque. L'aube les trouva au bastingage, fouettés par le vent et les embruns. Dans le fracas des vagues, les cris des mouettes et les claquements de la voile, ils échangeaient de doux serments en faisant 1000 projets d'avenir. Une fée marine, qui passait par là, surprit leurs propos. Charmée, car les fées aiment l'amour plus qu'il n'est raisonnable, elle se promit de leur venir en aide au cas où un obstacle se dresserait sur leur route. Or, obstacle il y eut, et de taille. Le roi, ayant constaté l'absence de sa fille, envoya sur l'heure un navire à ses trousses. « Ramenez-la, moi, morte ou vive » ordonna-t-il au capitaine. « Dussiez-vous, pour cela, expédier par le fond ce satané Raffio et tout son équipage ?» Le capitaine obéit. Bientôt, le canon tonna, ouvrant de larges brèches dans les flancs du galion. Puis les marins du roi donnèrent l'abordage. Comme ils étaient supérieurs en nombre et mieux armés, ils eurent rapidement le dessus. Ce fut un véritable carnage. Le pont du vaisseau pirate, jonché de corps sanglants, semblait un abattoir. Puis, selon la dure loi de la mer, les vainqueurs attachèrent Morgane le Noir au mât de misaine pour le fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ce, sous les yeux de la princesse qui, de désespoir, s'évanouit. Ce fut à cet instant que la fée intervint. Soustrayant les tragiques amants à leur bourreau, elle les changea, lui, en huîtres, elle, en perles. Puis elle les posa sur un lit d'algues au fond de l'océan pour qu'ils s'y aiment de tout leur saoul. À dater de ce jour mémorable, chacun put voir, à l'emplacement du drame, une étrange lueur sourdre des flots. C'était la Hélane, la perle des abîmes dont le rayonnement illuminait la mer. Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'elle attira les convoitises. Le roi en personne, chuchotait-on dans tout le pays, la désirait pour orner sa couronne et offrait son poids d'or à qui la pêcherait. Nombreux furent les plongeurs qui tentèrent l'aventure. Aucun d'eux n'en revint. Car la fée, prévoyante, avait garni la coquille de l'huître de dents de loup afin qu'elle dépeçât quiconque voudrait lui arracher sa perle. Par-delà leur métamorphose, l'amour de Gaëlan et de son ardent flibustier continuait à semer la mort. Dans ce joli conte tragique et romantique, les amoureux finissent par obtenir le bonheur qu'ils voulaient, mais en payant le prix fort. Leur entêtement amoureux sera récompensé par l'intervention d'une fée qui les épargnera de la souffrance et réalisera leur souhait d'être ensemble. Le bonheur ici intervient comme une récompense et se paye. Il leur faudra abandonner leur corps humain pour accéder au bonheur d'être ensemble. C'est un bonheur envers et contre tous dont le rayonnement n'a pas d'égal, comme si les souffrances et les sacrifices qu'il a exigés le rendaient plus beau. Alors il y a ceux qui se battent pour leur bonheur et il y a ceux qui abandonnent avant même d'avoir commencé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Là aussi, ça donne lieu à un conte tragique et romantique. Il s'agit de la princesse et du pêcheur. Il était une fois, il y a très longtemps, la fille d'un grand mandarin. Dotée de toutes les grâces, elle avait reçu le nom de Minuong, qui signifie « belle enfant ». Comme toutes les jeunes filles de sa condition, elle vivait en recluse dans le gynécée, situé dans une haute tour du palais. Uniquement entourée de servantes, elle ne recevait de visites que de ses parents. Sa chambre était meublée avec somptuosité et sa garde-robe tissée des soies les plus fines, mais elle n'avait Dieu ni pour l'une ni pour l'autre. Le plus souvent, elle se tenait près de la fenêtre, occupée à broder ou à lire des ouvrages de poésie. Parfois, elle s'arrêtait pour regarder la rivière qui coulait plus bas et rêvait de voyages et de rencontres en suivant son cours argenté. De temps en temps, la petite barque d'un pêcheur glissait sur l'eau calme. L'homme, nommé Truong Chi, était très pauvre. Il chantait souvent. De loin, Minuong ne voyait pas son visage, distinguait à peine ses mouvements, mais elle entendait sa voix qui s'élevait depuis les rives jusqu'à elle. La voix était belle et les paroles mélancoliques. C'était le seul contact de la jeune fille avec le monde extérieur qu'elle n'avait jamais connu qu'en soulevant le rideau de son palanquin chaque fois qu'elle obtenait l'autorisation de sortir du palais escortée des meilleures gardes du mandarin. Un jour, cependant, le pêcheur ne vint pas sur la rivière. Minuong se surprit à l'attendre jusqu'au soir. Pendant des jours, elle guetta en vain son retour, jusqu'à en perdre le sommeil et l'appétit. Appelée en hâte, les médecins se révélèrent incapables de déterminer les causes du mal qui s'était emparé d'elle et les parents commençaient à désespérer quand la jeune fille guérit soudain. Le pêcheur, revenu d'un voyage, chantait de nouveau sur son bateau. Instruit par une servante de l'attachement de Minuong pour ce chant, le mandarin convoqua l'homme et le mit en présence de sa fille. Au premier regard, celle-ci mit fin aux vagues songeries qu'avait suscité la chanson. Truong Chi, sale anglenie, n'avait rien du prince charmant qu'elle avait rêvé d'aimer. Elle l'oublia et retrouva sa tranquillité d'esprit. Cependant, le pauvre pêcheur, lui, reçut un coup fatal en voyant Minuong. Il retourna sur la rivière, mais le temps passant, il ne parvint à oublier ni la beauté ni le dédain de la demoiselle. Consumé par un amour sans espoir, il dépérit en silence et s'éteignit en emportant son secret. Des années plus tard, une inondation amena la famille du pêcheur à exhumer ses restes pour les transporter dans une nouvelle sépulture. Elle ne trouva dans le cercueil qu'une étrange roche translucide qu'elle fixa à la barque en guise d'ornement. Un artisan qui passait remarqua cette pierre insolite et l'acheta. Il y sculpta une tasse d'une exquise finesse. Le mandarin, père de Minuong, fit l'acquisition de l'objet car il avait eu vent d'un grand prodige. Chaque fois qu'on y versait du thé, on voyait l'image d'un pêcheur sur sa jonque faire lentement le tour de la tasse tout en chantant. Un jour d'automne, Mignon versa un peu de thé dans la tasse. L'image du pêcheur apparut. Ils se regardèrent. La jeune fille se souvint. Elle pleura. Une larme tomba dans la tasse, qui fondit aussitôt. L'eau, le pêcheur de dos, le champ, la femme dans sa tour, tant d'éléments qui contribuent à ce décor idyllique. Mais les apparences et l'importance que la jeune fille leur accorde est un obstacle au bonheur. Il sera remplacé par la mélancolie et peut-être le regret. Le décalage entre son fantasme du prince charmant et la réalité les fait passer à côté du bonheur. À vouloir trop, elle finit par avoir rien.
Put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, firemen come and rescue you. Blow a tire, you can patch the inner tube. And comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause it isn't any use. You'll just start sliding when your heart and hurry to the shore. Comes a summons, hide yourself behind the door. Comes love, nothing can be done. Thank you.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Face à ceux qui refusent le bonheur, il y a ceux qui sont toujours heureux et satisfaits de leur situation. Ces personnages-là, on les retrouve souvent dans les textes d'Alessandro Baricco et ils sont d'une beauté rare. Comment ne pas penser à la légèreté et à la joie qui émanent du trompettiste, narrateur de Novecento pianiste. Dans ce monologue, un trompettiste des océans nous raconte sa vie passée en mer sur les navires qui transitent vers et depuis l'Amérique. C'est sa rencontre avec Novecento, pianiste sur le bateau, qui illumine sa vie de marin et la nôtre de lecteur. Voici le récit de leur première rencontre, un soir de tempête. Première traversée, première tempête. La poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire du Virginian. En pleine nuit, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener, l'océan. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette histoire de pas compliquer les choses. Et puis rester sur sa couchette, bien tranquille. Mais moi, je pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Je ne voulais pas crever comme un rat, alors je suis sortie de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'était vraie ville flottante, ces machins. Sans blague. Bref. Ça ne fait pas un pli, à force de me cogner dans tous les coins et de prendre les couloirs au hasard, comme ça se présentait, j'ai fini par me perdre. Bon, j'étais fichue cette fois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type, tout élégant, habillé de noir, et qui marchait tranquillement, pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une chose à faire, bah il y va. Donc j'y allais. Et lui, il marchait. Moi c'était un peu différent. J'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis balloter de ci, de là, enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds, on arrive près du piano. Personne aux environs, il faisait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. « Enlève les cales !» il me dit. Le bateau dansait, c'en était un plaisir, tu tenais à peine debout, ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. « Si tu as confiance en moi, enlève-les » Il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. « Maintenant, viens t'asseoir ici !» me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Non, mais vraiment, j'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde, je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou, avec ce dingue en plus assis sur son tabouret, haute fichue savon, et ses mains immobiles sur le clavier. « Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais !» dit le dingue en souriant. « Ok, tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non ?» Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret, ça y est, j'y suis. Et maintenant? Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, j'y croirais pas moi-même si on me le racontait, mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues, il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées, puis un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'est comme si l'océan le berçait, et nous avec, et moi j'y comprenais rien. Et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer, et c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait ce piano. C'était absurde, mais n'empêche! Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris, à ce moment-là, que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emporté dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Novecento mit Splitlight, il fallait encore le perfectionner ce truc. Et je lui répondis qu'en fait, il s'agissait seulement d'enregistrer les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit « Nom d'un diable de tous les deux, vous descendez hélico dans la salle des machines et vous y restez, sinon je vous tue de mes propres mains. Et que ce soit bien clair, hein, vous paierez tout jusqu'au dernier centime, même si vous devez travailler toute votre vie, ou si vrai que ce bateau s'appelle le Virginian, et que vous êtes tous les deux les plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan. » Et c'est là, cette nuit-là, dans la salle des machines, que Novecento et moi, on est devenus amis. À la vie et à la mort, pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, et plus ça riait. Et quand j'y repense, je crois bien que c'était ça, être heureux. Ou ça y ressemblait. Cette rencontre, c'est une parenthèse de bonheur dans la vie. Une sorte d'à côté merveilleux, tellement beau qu'il en est presque irréel. Tout est réuni pour faire de ce moment un instant unique. La première tempête, celui qui est perdu, celui qui l'est pas, la rencontre inattendue, le nouveau, l'ancien, et bien sûr, la folie et l'excentricité de Novecento, ce personnage qui n'est jamais descendu sur Terre. Le bonheur qui émane du trompettiste-narrateur se construit sur l'inattendu de la rencontre, bien sûr, mais aussi, et sans doute surtout, sur l'affranchissement des règles, sur la liberté contagieuse de Novecento. À entendre le narrateur raconter cette rencontre, on comprend, en même temps que lui, que c'est rétrospectivement qu'il comprend à quel point cette rencontre l'a rendu heureux. C'est peut-être avec le recul et en comparaison de ce qu'il a vécu par la suite qu'il prend conscience du caractère exceptionnel de cette rencontre et du bonheur qu'elle a suscité. Parmi les bonheurs simples qu'on rencontre dans l'œuvre de Baricot, il y en a qui sont légèrement teintés de tristesse, mais ils n'en sont que plus beaux. Dans le roman « Océan mer », lorsque Barthelboom, professeur et scientifique, arrive à la fin de sa vie, cela donne lieu à une réflexion sur la mort, à une autre manière d'appréhender celle-ci. Voici l'extrait en question. Après, il n'a plus essayé, Barthelboom, de se marier. Il disait que le temps était passé, qu'on ne lui en parle plus. Moi, je pense qu'il en souffrait un peu de cette histoire, mais il ne te le faisait pas peser. Ce n'était pas son genre, ses tristesses, il les gardait pour lui et il savait passer par-dessus. Il était de ceux qui, quoi qu'il arrive, se font une idée heureuse de la vie. Un homme en paix, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant les 7 années où il a habité ici, à l'étage, en dessous, ce fut toujours une joie de l'avoir là, en dessous de chez nous, et chez nous, bien souvent, comme quelqu'un de la famille, et d'une certaine manière, il l'était. Son encyclopédie des limites, etc., il continua à y travailler jusqu'au dernier moment. Il s'était mis à la réécrire maintenant. Il disait que la science faisait des pas de géant et que, tout compte fait, on n'en finissait jamais de mettre à jour, de préciser, de corriger, de peaufiner. Ça le fascinait. Cette idée qu'une encyclopédie sur les limites finisse par devenir un livre qui n'avait jamais de fin. Un livre infini. C'était absurde quand on y pense. Et lui, bah, ça le faisait rire. Il m'expliquait ça encore et encore, émerveillé et amusé aussi. Un autre en aurait peut-être souffert, mais lui, je l'ai dit, certains raisonnements, il n'était pas fait pour. Il était léger, lui. Même mourir, ça va de soi, il le fit à sa façon. Sans grand spectacle, à mi-voix. Il se mit au lit un jour, il ne se sentait pas très bien, et une semaine après, tout était fini. On n'arrivait pas à voir s'il souffrait ou non. D'ailleurs, pendant ces jours-là, je lui demandais, mais ce qui comptait pour lui, c'était qu'on soit pas tristes, les uns et les autres, pour cette histoire de rien. Ça l'embêtait de déranger. Une fois seulement, il me demanda si je voulais bien lui installer une des fameuses toiles de son ami peintre, l'accrocher au mur, juste devant son lit. Ça encore, c'était une histoire incroyable, celle de la collection des plaçons. Presque tous blancs, croyez-moi ou pas. Mais lui, il y tenait énormément. Celui que je lui ai installé ce jour-là était vraiment blanc, lui aussi. Tout blanc, et il l'a choisi entre tous, et je l'ai installé pour qu'il puisse bien le voir depuis son lit. Il était blanc, je le jure. Mais lui, il le regardait, il se le tournait à l'intérieur des yeux, si on peut dire. La mer, disait-il doucement. Il mourut au matin. Il ferma les yeux et ne les rouvrit pas. Simple. Je sais pas, moi. Il y a des gens qui meurent, et sauf le respect, ce n'est pas une grande perte. Mais lui, c'était un de ceux... Quand ils ne sont plus là, tu le sens. Comme si le monde entier devenait, d'un jour à l'autre, un peu plus lourd. Si ça se trouve, cette planète et tout le reste, ça ne flotte dans les airs que parce qu'il y a plein de Bartleboom qui sont là et qui s'occupent de la faire tenir, si ça se trouve. Avec cette légèreté qu'ils ont. Ils n'ont peut-être pas des têtes de héros, mais c'est quand même eux qui veillent au grain. Ils sont comme ça. Lui, Bartleboom, il était comme ça. Pour dire, c'était quelqu'un qui pouvait te prendre par le bras, un jour comme les autres, dans la rue, et te dire en grand secret, « Moi, une fois, j'ai vu les anges. Ils étaient juste sur le bord de la mer. » Sans compter que lui, Dieu, il n'y croyait pas. C'était un savant. Pour les choses d'Élise, il n'était pas très disposé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il avait vu les anges. Et il te le disait. Il te prenait par le bras, un jour comme les autres, dans la rue. Et avec de l'émerveillement dans les yeux, il te le disait. Moi, une fois, j'ai vu les anges. Peut-on ne pas l'aimer, un homme comme celui-là ? Il m'a semblé, dans cet extrait, que le bonheur est partout. Il est partout parce que Bartleboom accepte tout ce qui lui arrive et s'en contente. Sans amertume, sans regret, sans en vouloir plus. Son encyclopédie des limites n'est pas finie, mais c'est pas grave. Face à un tableau blanc, il voit la mer et il disparaît avec légèreté. Bartleboom adopte une posture simple et modeste face à la vie et à la mort, et c'est sans doute là le secret de son bonheur. Le narrateur de Novecento Pianiste ou Bartleboom sont des personnages heureux en toutes circonstances. Le philosophe Alain, dans ses propos sur le bonheur, suggère la même chose, notamment dans son texte intitulé « Sous la pluie ». Il y a pourtant assez de mots réels. Cela n'empêche pas que les gens y ajoutent par une sorte d'entraînement de l'imagination. Vous rencontrez tous les jours un homme au moins qui se plaindra du métier qu'il fait et ses discours vous paraîtront toujours assez forts car il y a à dire sur tout et rien n'est parfait. Cependant, remarquez une chose, c'est que cela est sans fin et que tristesse engendre tristesse. Car à vous plaindre ainsi de la destinée, vous augmentez vos maux. Vous vous enlevez d'avance tout espoir de rire et votre estomac lui-même s'en trouve encore plus mal. Si vous aviez un ami et s'il se plaignait amèrement de toute chose, vous essayerez sans doute de le calmer et de lui faire voir le monde sous un autre aspect. Pourquoi ne seriez-vous pas un précieux ami pour vous-même ? Mais oui, sérieusement, je dis qu'il faut s'aimer un peu et être bon avec soi. Car tout dépend souvent d'une première attitude que l'on prend. Un auteur ancien a dit que tout événement a deux anses et qu'il n'est pas sage de choisir pour le porter celle qui blesse la main. Il s'agit donc de plaider pour soi, non contre soi. Nous sommes tous si bons plaideurs et si entraînants que nous saurons bien trouver des raisons d'être contents si nous prenons ce chemin-là. Par exemple, voici une petite pluie, vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie. C'est bon, c'est assez. À quoi bon dire « Oh, encore cette sale pluie !» Cela ne lui fait rien du tout aux gouttes d'eau, ni aux nuages, ni au vent. Pourquoi ne dites-vous pas aussi bien « Ah, la bonne petite pluie !» Je vous entends, cela ne fera rien du tout aux gouttes d'eau, c'est vrai. Mais cela vous sera bon à vous. Tout votre corps se secouera et véritablement s'échauffera, car tel est l'effet du plus petit mouvement de joie. Et vous voilà comme il faut être pour recevoir la pluie, sans prendre un rhume. Et prenez aussi les hommes comme la pluie. Cela n'est pas facile, dites-vous. Mais si, c'est bien plus facile que pour la pluie. Car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait beaucoup aux hommes et simplement par imitation, il les rend déjà moins tristes et moins ennuyeux. Vous vous rendez compte que ce texte a été rédigé en 1907 ? Il aurait aussi bien pu être écrit hier qu'on n'aurait quasiment pas vu la différence. À en croire le philosophe Alain, le bonheur est contagieux. Il a des conséquences sur ceux qui nous entourent et il nous confère une responsabilité. Mais surtout, dans ce texte, Alain souligne à quel point nous sommes acteurs de notre bonheur, que nous avons toujours le choix dans la manière dont nous percevons un événement, dont nous vivons les choses. Il affine sa pensée dans un texte paru en 1923, intitulé « Du devoir d'être heureux », et le voici. Le bonheur est beau à voir. C'est le plus beau spectacle. Il est toujours difficile d'être heureux. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Il y a sans aucun doute des événements insurmontables et des malheurs plus forts que l'apprenti stoïcien, mais c'est le devoir le plus clair peut-être de ne point se dire vaincu avant d'avoir lutté de toutes ses forces. Et surtout, ce qui me paraît évident, c'est qu'il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimé que celui qui est heureux, mais on oublie que cette récompense est juste et méritée. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi, nous devons reconnaissance et couronne d'athlète à ceux qui digèrent les miasmes et purifient, en quelque sorte, la commune vie par leur énergique exemple. Aussi, n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux ? Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime ? Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irai même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti pris d'être heureux. Car selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Alors le bonheur, ça se désire et ça se travaille. D'après le philosophe Alain, il faut prendre le parti d'être heureux. Tout commence par l'envie. À ça, il rajoute la notion de récompense. Si on travaille à son propre bonheur, on sera récompensé par l'amour des autres. Bon, ça tire légèrement du côté du catholicisme, mais on peut tout de même saluer cet optimisme. Quasiment un siècle est passé depuis la rédaction de ce texte, mais la clarté avec laquelle il formule son propos n'a pas pris une ride. Il résume son propos en une phrase « Il faut donc vouloir son bonheur et le faire ». Et à ça, moi, j'ai rien à ajouter. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.